La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui Hélène Filliol, conseillère,
et Audrey Arsac, conseillère référendaire.
Bonjour Hélène.
Bonjour Audrey. En ce mois d'octobre, la Sociale Le Mag se penche sur plusieurs décisions récentes rendues par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Un point d'actualité d'abord, avec deux arrêts récents. Place ensuite au décryptage. Audrey, tu examineras la question de la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Commençons par notre premier arrêt du 14 mai 2025 qui porte sur l'exercice par un particulier employeur de son droit de retrait en raison d'une absence pour cause de maladie de l'assistant maternel.
Peux-tu nous préciser, Hélène, les faits de l'espèce ?
Il s'agissait d'une assistante maternelle employée par un couple pour la garde de leur enfant. Elle avait été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à la suite d'un grave accident de la route. Ses employeurs avaient exercé leur droit de retrait quelques semaines après le début de son arrêt de travail. Elle avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de la rupture et obtenir des dommages et intérêts à ce titre, soutenant devant le conseil de prud'homme puis la cour d'appel que la rupture était intervenue pour un motif discriminatoire, soit sa maladie consécutive à l'accident de la route. La cour d'appel avait donné raison à la famille en retenant que les parents employeurs qui avaient une activité professionnelle n'avaient pas fait un usage abusif de leur droit de retrait dès lors que l'absence de l'assistante maternelle les avait désorganisés totalement, les obligeant à prendre des jours de congé pour garder leur enfant, ce qui avait créé le risque qu'ils perdent leur emploi.
Et le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir considéré que l'absence de l'assistante maternelle pour cause de maladie désorganisant la famille pouvait justifier l'exercice par le parent employeur de son droit de retrait.
Oui, c'est exactement cela.
Pourrais-tu nous expliquer ce qu'est le droit de retrait du parent employeur et les conditions d'exercice de celui-ci ?
Bien sûr, Audrey. En premier lieu, rappelons que les dispositions du Code du travail relatives au licenciement, notamment celles tenant à la motivation de la lettre de licenciement, ne s'applique pas aux assistants maternels. Ces derniers bénéficient, comme tous les emplois occupés par les salariés au service d'une famille, d'une réglementation spécifique. Cela ne signifie pas que leur situation échappe totalement aux dispositions du Code du travail. Le Code de l'action sociale et des familles détermine en effet la liste des dispositions du Code du travail qui leur sont applicables, parmi lesquelles on trouve celles relatives aux discriminations et au harcèlement. En second lieu, il est important de souligner que le droit de retrait du parent employeur qui met fin au contrat de travail de l'assistant maternel s'exerce librement et n'est sanctionné qu'en cas d'abus de l'employeur, notamment lorsque le motif du retrait est illicite.
L'illicéité du motif pourrait résulter par exemple de la violation des règles protectrices de la maternité ?
Tout à fait. La Cour de cassation a jugé par un arrêt du 26 mars 2002 que si le droit de retrait peut s'exercer librement, le motif de ce retrait ne doit pas être illicite et qu'il ne peut être porté atteinte aux dispositions d'ordre public relatives à la protection de la maternité. Il s'agissait dans cette affaire d'une assistante maternelle qui, après avoir annoncé sa grossesse à son employeur, avait été licenciée en raison de ses arrêts de travail pour maladie. Cette solution a été confirmée par la suite.
Faut-il comprendre que l'illicéité du motif pourrait résulter également de la violation des dispositions de l'article L1132-1 du Code du travail relative à la discrimination ?
Tout à fait. Le principe de non-discrimination, qui s'impose à tout employeur, s'applique à un particulier employeur s'agissant d'une règle essentielle du droit du travail. Comme nous venons de l'indiquer, le Code de l'action sociale et des familles le prévoit expressément en énonçant que les dispositions du Code du travail relatives aux discriminations sont applicables aux assistants maternels. L'assistant maternel bénéficie ainsi de la protection instituée par l'article L1132-4 du Code du travail, qui dispose que la rupture d'un contrat de travail en raison de l'état de santé du salarié est nulle.
Dans le droit commun du licenciement, ce principe de non-discrimination ne fait cependant pas obstacle au licenciement d'un salarié malade.
Oui, effectivement. Mais la Cour de cassation limite les possibilités de rupture du contrat de travail d'un salarié malade. Ce licenciement ne sera légitime qu'à deux conditions. D'une part, que le fonctionnement de l'entreprise soit perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, et d'autre part, que ces perturbations rendent nécessaire le remplacement définitif du salarié absent.
La Cour de cassation avait déjà été saisie de la situation d'une employée de maison licenciée en raison de ses absences répétées pour cause de maladie, perturbant l'organisation de l'aide apportée à ses employeurs.
Exactement. Cette affaire concernait non une assistante maternelle, mais une employée de maison, également soumise à un statut professionnel particulier. Celle-ci avait été engagée par un couple de personnes âgées qui étaient dépendantes physiquement. Dans un arrêt du 16 septembre 2015, la Cour de cassation a décidé que dès lors qu'elle perturbe le bon fonctionnement de la vie familiale, les absences répétées ou prolongées justifient le licenciement d'une employée de maison occupée par un particulier, même si l'employeur n'a pas procédé à son remplacement définitif.
En somme, la réponse apportée par cet arrêt était transposable à la situation d'un assistant maternel employé par un particulier employeur. Alors en définitive, quel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 mai 2025 ?
Le pourvoi ayant donné lieu à cet arrêt permet à la Cour de cassation de préciser pour la première fois que le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle au retrait de l'enfant à un assistant maternel en raison de la désorganisation familiale engendrée par l'absence de ce dernier pour cause de maladie.
Et comme pour l'employé de maison, la seule condition pour que la rupture soit légitime est la désorganisation engendrée par l'absence de l'assistant maternel, autrement dit le fait que cette absence perturbe la vie familiale des employeurs. Le second arrêt de notre actualité a été rendu le 25 juin 2025. Il apporte des précisions sur l'incidence d'une faute grave en cas de rupture conventionnelle homologuée.
Dans cette affaire, le salarié engagé en qualité de directeur commercial avait signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité spécifique qui devait prendre effet 6 mois après la signature de la convention. Mais après l'homologation de la convention de rupture par la directe et avant la date de la rupture fixée par les parties, le salarié a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant des faits de harcèlement sexuel. Et il a notamment soutenu, devant la juridiction prud'homale, que l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle lui était acquise dès l'homologation de la convention de rupture et que l'employeur ne pouvait donc plus, après cette homologation, le licencier pour faute grave.
Le pourvoi posait ainsi la question de savoir si l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était acquise au salarié dès l'homologation de la convention de rupture ou si elle pouvait être remise en cause en raison d'une faute grave imputée au salarié entre la fin du délai de rétractation et la date de prise d'effet de la convention de rupture.
Exactement, Audrey.
Mais avant d'aller plus loin, pourrais-tu rappeler l'incidence d'une faute grave commise durant l'exécution du préavis ?
Bien sûr, Audrey. La faute grave commise par le salarié, à la supposée établie, rend impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise, même pendant l'exécution du préavis. Elle permet ainsi à l'employeur de mettre immédiatement fin au contrat de travail. Cette règle trouve régulièrement à s'appliquer dans le cas de fautes commises ou révélées durant l'exécution du préavis ou dont l'employeur a eu connaissance durant l'exécution du préavis. Dans ces hypothèses, la Cour de cassation retient que le droit à indemnité de licenciement prend effet à la date de notification du licenciement, de sorte que les événements survenus postérieurement n'affectent pas son versement.
Mais ces jurisprudences sont relatives à des hypothèses où il n'y a pas eu de convention de rupture, mais un licenciement, et où la faute grave a été révélée ou commise durant le préavis. Or, la rupture conventionnelle ne comporte pas un préavis.
Tout à fait, Audrey. Cependant, la convention fixe la date de rupture du contrat de travail qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation et l'employeur peut licencier le salarié pour faute grave entre la date d'expiration du délai de rétractation et la date d'effet prévue de la rupture conventionnelle pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Il conserve ainsi son pouvoir disciplinaire au cours de cette période comme pendant le préavis. Donc, comme pour l'indemnité de licenciement qui naît à la date du licenciement, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle naît au moment de l'homologation, même si elle n'est exigible qu'au moment de la rupture. Une fois la convention homologuée, même si la rupture n'est pas encore effective, l'indemnité prévue est définitivement acquise. La Cour de cassation l'a jugée par un arrêt du 11 mai 2022, dans le cas du décès du salarié entre la date de l'homologation et la date de la rupture prévue, en disant que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.
Doit-on comprendre que l'arrêt évoqué aujourd'hui suit la voie tracée par celui du 11 mai 2022 ?
En définitive, cet arrêt étend et combine les deux jurisprudences que nous venons d'évoquer. D'abord, celle autorisant l'employeur à rompre le contrat de travail en cours de préavis en cas de faute grave, cette rupture n'entraînant pas la perte au droit à l'indemnité de licenciement. Ensuite, celle selon laquelle le droit à l'indemnité conventionnelle naît de l'homologation de la convention, même si cette indemnité n'est exigible qu'au terme du contrat de travail. Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre rubrique décryptage consacrée à la mise en œuvre du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel. Alors que les textes antérieurs ne prévoyaient qu'une obligation de moyens, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen, a imposé aux syndicats une réelle obligation de résultat. Ils sont désormais contraints de présenter aux élections professionnelles des listes reflétant la proportion des femmes et des hommes dans chaque collège électoral.
Tout à fait, Hélène. Et c'est le constat de la sous-représentation des femmes dans les instances représentatives du personnel qui a justifié que soit pris un texte plus contraignant. Le gouvernement a considéré que le fait qu'un plus grand nombre de femmes soient élues dans ces instances permettrait de mieux prendre en compte dans les entreprises les questions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il s'agissait aussi de renouveler les élus et d'améliorer l'image des institutions représentatives comme celle des organisations syndicales auprès des salariés.
Audrey, peux-tu nous indiquer comment les listes sont constituées ?
Il faut retenir deux grands principes posés par l'article L2314-30 du Code du travail. Au-delà de leur apparente simplicité, leur mise en œuvre est souvent complexe et la Cour de cassation est amenée régulièrement à en déterminer les modalités d'application, comme elle l'a fait récemment dans des arrêts des 21 mai et 4 juin 2025 que nous allons décrypter ensemble. Mais rappelons d'abord quels sont ces principes. D'une part, le principe de proportionnalité. Le législateur n'a pas retenu une stricte parité femmes-hommes qui aurait posé d'importantes difficultés dans les secteurs professionnels où un sexe est très largement surreprésenté par rapport à l'autre. C'est le choix d'une représentation miroir des électeurs qui a été fait. Ainsi, une fois déterminés les pourcentages respectifs d'électeurs hommes et femmes dans les différents collèges électoraux de l'entreprise, ce pourcentage est appliqué au nombre de sièges à pourvoir en appliquant une règle d'arrondi. Le second principe à retenir est celui de l'alternance. Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Ce principe tend à éviter que les candidats du sexe minoritairement représenté ne soient relégués en fin de liste.
Ces règles s'appliquent-elles à tous les candidats ?
Elles s'appliquent à tous les candidats, titulaires comme suppléants, présentés par les organisations syndicales au premier et au second tour quand il y en a un. En revanche, la Cour de cassation a jugé en 2020 qu'elle ne s'appliquait pas aux candidatures libres. En 2024, elle a d'ailleurs refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet, considérant que les organisations syndicales qui bénéficient d'un monopole de présentation des candidats au premier tour ne sont pas dans la même situation que les salariés qui présentent des candidatures libres au second tour.
Et il est également important de préciser que les dispositions sur la représentation équilibrée femmes-hommes sont d'ordre public. La Cour de cassation l'a indiqué dans un arrêt du 11 décembre 2019. Le protocole d'accord préélectoral, conclu en amont de l'élection entre l'employeur et les syndicats, pour fixer les modalités du scrutin, ne peut ainsi pas y déroger. Mais si après les élections est constatée une violation des règles relatives à la représentation équilibrée femmes-hommes, comment est-elle sanctionnée ?
Le Code du travail prévoit l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas les règles de l'article L2314-30. Ainsi, quand il y a violation de la règle de proportionnalité, c'est-à-dire quand un sexe est en surnombre sur une liste, le juge doit déterminer sur cette liste combien de candidatures de ce sexe sont surnuméraires par rapport au nombre légalement fixé. Il annulera ensuite l'élection d'autant d'élus de ce sexe qu'il y avait de candidatures surnuméraires sur la liste, et ce, dans l'ordre inverse de cette liste. Attention, le respect de la proportion femmes-hommes s'apprécie non pas au regard du résultat de l'élection, mais bien de la composition de la liste. Cela peut aboutir à l'annulation du seul élu de la liste.
Peux-tu nous donner un exemple, Audrey ?
Bien sûr, Hélène. Imaginons un collège électoral dans lequel 3 sièges sont à pourvoir et qui est composé de 82% d'hommes et de 18% de femmes. En application des règles d'arrondi, cela représente 2 sièges pour des hommes et 1 siège pour une femme. Si une liste présente 3 hommes et que seul un homme de cette liste est élu, son élection est annulable. En effet, sur cette liste, un homme est en surnombre, de sorte qu'il faut annuler l'élection d'un homme de cette liste, peu important qu'il soit le seul élu. Par ailleurs, si un syndicat peut déposer une liste incomplète, cela ne peut pas avoir pour effet d'éliminer toute représentation du sexe minoritaire qui aurait dû être représentée si la liste avait été complète, c'est-à-dire si elle avait comporté autant de candidats que de sièges à pourvoir.
Et s'agissant de la règle de l'alternance ?
La Cour de cassation a indiqué dans un arrêt du 4 juin 2025 que le respect de la règle de l'alternance doit être examiné candidat par candidat au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste. Prenons un exemple. Si une liste comporte un homme, puis 2 femmes, puis un homme, puis une femme, seule l'élection de la candidate numéro 3, candidate femme qui suit une autre femme sur la liste, sera annulée. L'élection des candidats suivants, pour lesquels l'alternance est de nouveau respectée, demeure quant à elle valide. Cette solution se déduit de ce que, si la loi impose une alternance, elle ne prévoit pas lequel des 2 sexes doit être présenté en premier sur la liste. Cette liberté de choix est d'ailleurs telle que la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2025, jugé qu'un protocole d'accord préélectoral ne pouvait imposer aux organisations syndicales un ordre d'alternance.
Peux-tu nous indiquer, Audrey, à quelle date doit s'apprécier le respect de ces dispositions ?
La Cour de cassation s'est récemment posé cette question dans un arrêt du 21 mai 2025. Dans cette affaire, la liste telle qu'elle a été déposée à la date butoir prévue par le protocole d'accord préélectoral respectait la règle de proportionnalité. Mais une candidate femme s'est ensuite retirée de cette liste, de sorte qu'un homme s'y est trouvé en surnombre. Dès lors, la validité de l'élection de cet homme dépendait de la date à laquelle on se plaçait pour apprécier la régularité de la liste. Le tribunal a choisi d'annuler l'élection du candidat devenu surnuméraire, en jugeant que devait être prise en compte non pas la liste déposée avant la date limite, mais la liste ensuite effectivement présentée au vote des électeurs. La Cour de cassation a censuré ce jugement en posant le principe selon lequel lorsqu'un protocole préélectoral mentionne une date limite de dépôt des candidatures, celle-ci s'impose au parti et l'appréciation de la régularité des listes au regard de l'article L2314-30 du Code du travail s'entend des listes déposées avant cette date limite de dépôt, peu important que la liste de candidats soumise au scrutin soit incomplète à la suite de la décision ultérieure de certains candidats de se retirer de la liste.
Cette solution est logique puisque lorsque le protocole d'accord préélectoral prévoit une date limite de dépôt des listes de candidats, cette date s'impose aux syndicats.
Absolument, Hélène. Prendre en compte la liste des candidats modifiés après la date de dépôt prévue par le protocole d'accord préélectoral serait de nature à ôter tout effet obligatoire à cette date. Par ailleurs, ni le syndicat ni l'employeur n'ont la main sur le retrait d'un candidat entre le dépôt de la liste et l'élection elle-même. Ainsi, nul ne peut être candidat sur une liste sans son accord, et la décision d'un salarié de ne plus figurer sur une liste de candidats s'impose au syndicat ayant présenté cette liste, lequel doit retirer le salarié de sa liste de candidats dès qu'il en est informé. Enfin, par cette décision, la Cour de cassation a privilégié une conception objective de la liste, dès lors qu'il n'est ni possible ni opportun de sonder les raisons réelles du retrait d'une candidature.
Un syndicat reconnu représentatif dans l'entreprise à l'issue d'élections professionnelles peut-il perdre sa représentativité si l'élection de certains de ses élus est annulée sur le fondement des règles sur la représentation femmes-hommes ?
La Cour de cassation a jugé le contraire dans un arrêt du 9 octobre 2024. Elle a ainsi affirmé que l'annulation de l'élection d'un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des prescriptions prévues à l'article L23-1430 est sans effet sur la condition d'audience électorale requise par l'article L21-22-1 pour l'acquisition de la qualité de syndicat représentatif. La solution s'impose dès lors que sont représentatifs les syndicats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, et que les résultats du second tour sont donc indifférents sur l'acquisition de la représentativité.
Parfois, le syndicat qui saisit le tribunal en annulation de l'élection de candidats d'une liste concurrente pour défaut de respect des dispositions sur la représentation équilibrée femmes-hommes n'a lui-même pas respecté ces règles. Le syndicat défendeur est-il alors recevable à former une demande reconventionnelle pour solliciter lui aussi l'annulation de l'élection de candidat du syndicat demandeur ?
Il est vrai que cette situation se produit assez régulièrement, d'autant plus que le délai pour contester la régularité de l'élection est un délai court de 15 jours. Pour apprécier la recevabilité d'une demande reconventionnelle, il convient de vérifier si cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, comme l'exige l'article 70 du Code de procédure civile. Or, dans l'arrêt précité du 21 mai 2025, la Cour de cassation a jugé que la demande reconventionnelle tendant, pour le syndicat défendeur, à solliciter l'annulation de l'élection d'élus de la liste du syndicat demandeur sur le fondement des mêmes textes qui lui sont opposés, même si elle est relative aux mêmes opérations électorales, n'est pas recevable dès lors qu'elle ne vise pas le rejet total ou partiel de la demande initiale.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi. Et pour certains d'entre eux, à la lettre de la Chambre sociale, vous pourrez trouver les références des arrêts cités dans la chronique sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Au revoir Audrey.
Au revoir Hélène.